Eh bien, bonjour à tous et bienvenue. Merci d'être venus. Donc cette séance a lieu dans le cadre du séminaire Relire les sciences sociales, donc qui est organisé par le département de sciences sociales. C'est un séminaire qui a maintenant une bonne dizaine d'années et qui, à l'initiative de Pierre Merclé, qui vise, comme son nom l'indique, à lire, relire et discuter des travaux récents en sciences sociales. Et nous, avec Baptiste, on a voulu lire ou relire les sciences sociales à travers une expérience nouvelle avec la collection Sociorama. Cette jeune collection, puisque les premiers albums sont parus en janvier 2016, qui mêle, voilà, donc qui mêle bande dessinée et sociaux en relisant la sociologie à travers la bande dessinée. Et alors aujourd'hui, ce sera surtout sur deux enquêtes originales, celle de Jérôme Berthaud et de Anne Lambert, ici présente. Et on, voilà, les invités, en fait, on a voulu aussi qu'il y ait différentes personnes qui ont fait différentes places dans le processus de création, puisqu'on a la directrice de collection, un illustrateur et une sociologue. Et si vous l'avez remarqué, on a un libraire si vous voulez après acheter des ouvrages et pourquoi pas les faire dédicacer par les personnes présentes. Voilà, donc merci.
Donc parmi la collection, on avait fait le choix de prendre deux ouvrages qui sont La banlieue du 20h, qui nous livrent le traitement médiatique de la banlieue à travers le regard du JT, et notamment via le personnage de Jimmy Tandini, donc ici. Et un autre ouvrage qui est Turbulence. Donc c'est une ethnographie d'un équipage d'un long courrier, donc d'une compagnie française, et c'est un sujet, donc c'est déjà un sujet assez atypique qui résulte des travaux, des premiers travaux de recherche de Anne Lambert ici présente. Donc on a le plaisir d'accueillir pour cette conférence, on va commencer par Yasmine Boga, la directrice de collection, donc chargée de recherche au CNRS, Anne Lambert, chercheuse en sociologie pardon, à l'INED et au centre Maurice Alvax, et co-auteur de Turbulence, et enfin l'illustrateur et co-auteur El Carava, donc, qui a un blog de bande dessinée également. Donc, pour les interventions, on va commencer par Yasmine Bogan, qui va nous présenter la collection justement de Sociorama Sciences Sociales en bande dessinée.
Et ben donc, bonjour à tous. Donc, je suis co-directrice de la collection avec Lisa Mandel. Donc, comme c'est une collection sociologie et bande dessinée, on a une co-direction, Lisa Mandel, autrice de bande dessinée pour le volet plutôt artistique, et moi-même, sociologue pour le volet socio. Mais ce volet sociologie, il est aussi très collectif, puisqu'il est né d'un programme, d'un séminaire qu'on a monté, qu'on avait monté à l'ENS de Paris, boulevard Jourdan, autour de la rencontre entre sociologues et auteurs de bande dessinée. Alors, je pense que j'ai mis une petite planche, voilà. Donc, les initiateurs de ce projet collectif, c'est donc Marianne Blanchard, Julien Gros, Mathias Thurin et moi, que vous voyez ici dessinés par Marianne Blanchard. Et on était donc des sociologues, alors à ce moment-là, en thèse, et on, avec tous un intérêt pour les méthodes ethnographiques. Et on avait découvert une proximité avec certains auteurs de bande dessinée qui s'appuyaient sur des méthodes d'enquête de terrain très similaires aux nôtres, en s'immergeant dans des milieux sociaux, faisant des entretiens, etc. Et donc on avait décidé de faire un séminaire pour en discuter, ces modes de représentation du monde social. Et dans le cadre de ce séminaire, on a rencontré Lisa Mandel, qui est donc autrice de bande dessinée et qui avait fait un travail qui s'appelle HP sur l'hôpital psychiatrique à partir d'entretiens avec des infirmiers en psychiatrie, dont elle a retracé les parcours de vie et à partir de ces entretiens-là, elle a reconstitué les évolutions du milieu de la psychiatrie des années 70 à nos jours. De cette rencontre, on s'est dit, mais il peut naître vraiment un travail en commun très fructueux, puisque ce que nous a dit Lisa, c'était que souvent les auteurs de bande dessinée ne prenaient pas le temps de faire des enquêtes aussi approfondies et parfois faisaient des ouvrages sans avoir toujours la matière, alors que les sociologues ont la matière et même parfois plus que nécessaire, mais n'ont pas les lecteurs. Et donc l'idée, c'était de mettre ensemble nos forces communes pour essayer essayer de diffuser plus largement les résultats des enquêtes sociologiques. Et donc c'est de là qu'est née la collection Sociorama qui a été soutenue par Casterman, qui a trouvé que c'était une bonne idée. Faut dire que ça s'appuie sur un certain courant dans la bande dessinée, d'aller vers la bande dessinée reportage, mais aussi la bande dessinée de vulgarisation scientifique. Donc il y a plusieurs projets qui sont nés au même moment, de la petite BDTech des savoirs par exemple, c'est un équivalent des Que sais-je en bande dessinée, ou la revue dessinée qui est vraiment du reportage en bande dessinée. Et nous, on a une position un peu différente puisqu'on s'appuie sur des enquêtes de terrain, des enquêtes sociologiques, mais on en fait des albums de bande dessinée qui sont pas de la sociologie illustrée et qui ont vraiment une dimension propre à travers une trame narrative de fiction. Donc voilà, les enquêtes de terrain dont sont tirés les albums dont je vous ai parlé. Enfin, les albums, vous avez vu les couvertures auparavant, donc chantier interdit au public, encaissé, etc. Et comment on procède. Donc pour que ce ne soit pas un cours illustré, que ce ne soit pas de la sociologie illustrée ou de simplement un cours de sociologie mis en image, on a voulu quand même donner une certaine autonomie à la création dans les albums. Alors Anne parlera de la particularité de son album à elle, où elle est scénariste, sinon dans les autres albums, l'auteur de bande dessinée est un auteur à part entière et pas un illustrateur justement. Donc il y a une part de travail de créatif dans l'adaptation qui est très important. Et en même temps, on ne voulait pas que le travail sociologique serve simplement de réservoir de gags pour une bande dessinée. Et donc, il y a tout un travail de suivi pour s'assurer que l'adaptation conserve, préserve et transmet les résultats de l'enquête sociologique. Et donc, ce suivi-là, il procède par étapes. Donc, la première étape, c'est un synopsis, qui est comme un scénario, en fait, où à partir du livre du sociologue ou de sa thèse, l'auteur de bande dessinée va écrire un scénario qui est une première étape de fictionnalisation, de quels personnages vont être mis en scène pour quelles actions. Et donc on va discuter de ce synopsis pour voir si la trame narrative met bien l'accent sur les résultats importants de l'enquête, puisque c'est ça qui nous importait. Ensuite, le storyboard, c'est la partie dessinée, c'est une sorte de brouillon de la bande dessinée. Et ce storyboard, il va être lu et discuté par le comité scientifique de la collection, qui justement va essayer de s'assurer qu'on fait bien passer les idées sociologiques sur la manière de mettre en scène les personnages, quel type d'action, quel type d'information il faut transmettre au lecteur à travers les différents événements qui se passent. Et enfin, la version définitive de l'album qui arrive à peu près au bout de 9 mois, 1 an. Donc c'est un travail quand même assez long de fabrication parce qu'il y a beaucoup d'allers-retours. Et El Karava vous en parlera de ce que c'est aussi pour un auteur de travailler dans ce cadre collectif où il y a beaucoup de regards sur son travail. Et donc voilà, l'enjeu, c'est d'arriver à une narration fluide qui en même temps restitue les principaux résultats de l'enquête. Donc je vous ai mis des images là de chantier interdit au public. Donc c'est des extraits de planches qui montrent la version brouillon et la version définitive de cette mise en scène de l'agence d'intérim. Et donc je vous ai donné un exemple de longue discussion qu'on avait eue à partir du storyboard. Donc là, c'est la remarque du sociologue à partir de la version mise en scène de son enquête par l'autrice de bande dessinée Claire Brault. Et donc Nicolas Jounin discutait la manière dont les personnages se rencontrent, sont mis en scène, en expliquant notamment que là, pour le cas du ferrailleur, c'est pas Sekou qui peut demander un poste de ferrailleur pour Hassan, parce que c'est pas comme ça que ça se passe sur le terrain. Donc il fallait essayer que chaque action soit, puisse être validée par, par le sociologue. En l'occurrence, comment est-ce qu'on obtient tel ou tel poste sur un chantier, et la, l'importance des recommandations par les proches. Hein, là, en l'occurrence, recommandations de la part d'un cousin et le rôle de l'agence d'intérim. Donc ça, c'était vraiment ce qui nous importe, c'est qu'à chaque étape, on puisse s'assurer de la vraisemblance, même quand on passe à la fiction, de la vraisemblance rigoureuse avec le terrain et ce qu'ont montré les sociologues au cours de leur enquête. Donc ça, c'est un autre extrait de Chantier interdit au public, où je vous l'ai mis parce que ça me paraissait intéressant de voir ce que ça pouvait apporter, la bande dessinée, comme retour au terrain après l'enquête réalisée par le sociologue, puisque là, en fait, on peut restituer l'ambiance visuelle d'un chantier, ce à quoi Claire Brault s'est très longuement attachée, c'est beaucoup documenté pour aussi montrer toute cette agitation spatiale des corps sur un chantier où on est toujours soumis à des cadences très fortes. Et c'est vrai qu'on ne peut pas toujours restituer toutes ces dimensions des rapports sociaux dans l'espace par un texte. Et le retour à l'image permet de remettre dans l'enquête, dans le travail du sociologue, toute la richesse de son ethnographie, en fait. Donc ça a été une dimension très intéressante dans Sociorama. Là, je ne vais pas commenter parce que je vais laisser Anne le faire. Donc, on peut passer. Donc, c'est un extrait de Turbulence. Voilà, un extrait d'Encaissé. Mais pareil, on va passer. Ça, c'est un exemple de réaction du comité scientifique de Sociorama qui donc intervient sur les storyboards aussi. Et donc là, sur Encaissé, c'était sur cette question de comment... Une fois qu'on a fait, enfin, je ne sais pas si vous connaissez cet ouvrage de Marlène Binquet, mais où c'est trois univers différents du monde de la grande distribution, de la caisse, du syndicat et de la direction des ressources humaines, et le fil qui fait le lien entre ces trois univers dans le livre qu'elle a écrit, c'était son personnage de sociologue. Comme on a choisi dans Sociorama de ne pas mettre en scène le personnage du sociologue, il fallait trouver des techniques aussi pour relier les univers. Et d'où là la question de faire apparaître à certains moments dans la narration ces liens entre les niveaux. Donc voilà le fameux Monsieur Martin dont il est question sur la séquence précédente, donc ce directeur des ressources humaines. Et comment il... Comment dans ses rêves, en fait, apparaît cette préoccupation pour le fonctionnement de l'entreprise. Donc ça, c'est aussi ce que peut apporter le dessin pour essayer de représenter ce qu'on va expliquer dans une analyse sociologique en termes d'angoisse, d'inquiétude, de pression psychologique ressentie par les cadres, en l'occurrence. Et là, de le faire ressortir par des images un peu monstrueuses on n'a pas voulu tirer vers la caricature, hein, c'était pas trop notre objectif, mais c'était vraiment d'essayer de restituer cette idée de l'imaginaire aussi des enquêtés. Ouais, ça c'est la suite. Ça je vais pas commenter, vas-y. Je voulais pas trop prendre de temps parce que pour les albums et le mode de fonctionnement des albums, Anne et El Karava vous parleront de comment eux ils ont travaillé sur chacun de leurs livres. Et je voulais mentionner le hors-série qu'on vient de publier avec Lisa Mandel sur les nouvelles de la jungle, et qui a un mode de fonctionnement un peu différent puisque on n'a pas procédé par adaptation d'une enquête sociologique déjà faite. On est parti ensemble sur le terrain et plutôt sur un mode journalistique au départ, qui progressivement s'est transformé en enquête ethnographique à force de rester longtemps sur le terrain. Et donc là, c'était vraiment un travail en commun sur un regard de plus en plus informé sur une situation et essayer d'en rendre compte par l'image et le texte, hein, par une... par une narration qui permette à la fois d'accrocher le lecteur et de lui apporter des clés de compréhension de ce qui se passe. Et je vais juste finir en annonçant les deux prochains albums. Donc la collection continue, hein, parce que ça, on trouve le projet intéressant, l'éditeur également. Et donc les deux prochains albums qui vont sortir au printemps portent sur l'un sur les femmes en chirurgie, s'appelle « Sous la blouse ». Et c'est l'adaptation de l'enquête d'Emmanuel Zolesio donc sur les chirurgiens en féminin. Et le deuxième album s'appelle « Plus belle la série ». Et c'est l'adaptation de l'enquête de Muriel Mill sur la fabrication à la chaîne d'un feuilleton télévisé. Donc vous aurez reconnu... Vous aurez reconnu la référence. L'extrait ici est tiré de cet album-là. Et donc, ça va sortir en avril. Je crois qu'il reste encore une planche. Non, c'est tout. Ben, voilà. Voilà. Donc, j'ai été assez rapide pour qu'on puisse discuter. Je pense que vous aurez des questions ensuite, après les présentations de Anne et Carava.
Alors du coup, je vous remercie pour votre invitation et c'est une petite anecdote, je suis très émue d'être dans cette salle parce que c'est là où j'ai passé mes concours d'entrée en 2002, donc il y a un certain nombre d'années et je n'imaginais pas effectivement me diriger vers ce mode d'écriture. Alors je vais vous présenter en particulier donc, l'album Turbulence que j'ai fait... l'année dernière, qui est sortie donc en avril dernier. Et en fait, ce qui m'intéresse ici avec vous, puisque moi je suis sociologue, enfin je suis de formation et chercheuse en sociologie aujourd'hui, c'est d'essayer de restituer le lien et de vous poser les interrogations, enfin de vous restituer les interrogations que ça nous pose entre la BD, l'écriture de la BD et l'ethnographie qu'il y a derrière, qui est donc ce terrain... Air France, donc normalement, voilà ce que je disais tout à l'heure, il est anonymisé, il est censé être anonymisé puisque j'ai une convention juridique de recherche qui encadre l'ethnographie que je fais là-bas, et notamment l'utilisation du nom de l'entreprise qui s'appelle donc Air France dans la BD, mais que tout le monde reconnaît effectivement. Voilà. Alors, le projet au départ, donc... En 2014, donc moi j'avais fini ma thèse, fini le livre de la thèse aux éditions du Seuil, dans une collection assez académique. Et je, peut-être comme beaucoup d'entre nous, j'en avais marre un petit peu de cette écriture et de m'adresser exclusivement à une communauté de chercheurs ou à des collègues chercheurs. Et... par d'un concours de circonstances, je me suis retrouvée à enclencher une enquête sur les personnels navigants du transport aérien, donc pilotes, hôtesses et stewards. Et le point de départ de cette enquête, c'est vraiment un hasard de la vie, c'est que je sortais de la thèse, j'étais recrutée à l'INED comme chercheuse, et à l'INED, on doit faire un certain nombre de déplacements étrangers, j'étais phobique de l'avion, et j'aurais dit, je ne peux pas voler, il faut que j'aille me former, enfin, il faut que je fasse le stage anti-stress, voilà, pour pouvoir voler, voilà, en tout cas, prendre l'avion assez de manière autonome et assez régulièrement. Bref, je me suis retrouvée dans le centre de formation technique des pilotes, hôtesses et stewards à Orly, à Roissy, et donc là, en fait, le jour de la formation, je me suis dit, bon, c'est intéressant cette formation, mais surtout, c'est intéressant comme univers, comme monde social, en fait. Et ça m'a donné vraiment le goût et l'envie d'enquêter sur ce groupe professionnel qui n'est pas uni, mais qui est très intéressant, puisqu'on a en fait deux groupes sociaux assez proches, des hôtesses stewards d'un côté et des pilotes. Les pilotes exclusivement des hommes, hein, c'est 94% d'hommes. Hôtesses et stewards, c'est 2/3 de femmes qui font le même travail, le même travail au sens les mêmes horaires, les mêmes amplitudes horaires, les mêmes vols, mais qui ont des règles d'exploitation, d'utilisation, des conditions de travail, de rémunération assez différentes, comme vous le savez, vous le suivez peut-être avec l'actualité. Et donc, je me suis dit que c'était un objet assez intéressant pour croiser l'analyse des effets de classe et de genre sur le rapport au travail et l'articulation des temps sociaux, puisque je pouvais comparer dans les mêmes avions et dans les entretiens ces deux groupes. Et donc j'ai enclenché cette enquête en 2014 avec une série d'entretiens. Je continue en fait encore l'enquête, donc vous allez voir, ça pose des questions sur est-ce que c'était le moment de faire la BD, comment elle est reçue sur le terrain, Donc des entretiens biographiques, des observations de rotation, donc où je suivais les équipages en vol et en escale, des archives institutionnelles. Et voilà pourquoi il y a une convention, c'est que j'ai pu accéder à la base du personnel d'Air France, donc toutes les données individuelles de carrière, de salaire, etc., que je suis en train d'exploiter statistiquement. Et assez rapidement, en fait, l'idée, puisque c'était plus ma thèse, c'était après thèse, c'était pas d'écrire d'abord un format académique, article ou livre, mais vraiment, je voulais me tourner vers une écriture de BD. Et la rencontre, à l'époque, s'est faite assez vite, donc avec la collection qui se montait. Et l'originalité de ce projet, c'est que du coup, je n'ai pas écrit de livre et effectivement donné un livre à un dessinateur, mais on a travaillé sur le scénario. Et puis avec Baptiste Viro, qui est illustrateur, dessinateur, il a mis en image cette BD. Et puis il a apporté des choses dont on va discuter aussi juste après. Alors le scénario, c'est tout simple, il ne se passe effectivement rien, c'est-à-dire on suit un long courrier. Du départ de Paris jusqu'au Brésil, à Sao Paulo, par trois points de vue, un commandant de bord, le commandant de bord de l'équipage, une hôtesse et une personnage trentenaire, diplômée urbaine phobique de l'avion, qui, vous l'aurez compris, correspond à mon expérience, mais ce n'était pas spécialement pour me mettre en scène, puisqu'on ne met pas l'enquêteur en scène, c'est plus pour faire un lien, un peu un personnage d'identification avec un lectorat potentiellement plus large, puisqu'on sait qu'en fait, il y a plus d'un tiers des passagers qui ont peur de l'avion à un degré ou à un autre, et que c'est de toute façon une entrée qui permet d'introduire un petit peu d'humour là où le sujet est assez sérieux, et où, et encore une fois, au niveau de l'intrigue, il ne se passe pas grand-chose. On suit le déroulement, donc unité de lieu, unité de temps, de ce long courrier de Paris à Sao Paulo. Et les contraintes qui étaient les miennes à l'époque, c'était 160 pages, comme tous les albums, noir et blanc, pas d'appareil critique, pas de termes techniques, pas de notes, pas de bibliographie, pas de termes techniques aussi, au sens où l'idée, c'était vraiment de donner l'intuition par l'image, par le dessin, par le dialogue, des rapports sociaux qu'on observe en tant que sociologue sur le terrain, sans jamais utiliser un terme technique, un terme de sociologue qui nécessite des définitions, etc. Donc c'est un pari, puisque qu'est-ce qui reste du propos sociologique une fois qu'on a gommé ça, une fois qu'on a gommé les chiffres, les concepts, etc. Quelle analyse on a par le dessin? On va faire un test tout à l'heure. Je vous présente d'abord juste rapidement l'écriture. Comme le disait Yasmine, en fait, c'est un processus d'aller-retour entre moi qui faisais l'enquête et le scénario détaillé, le dessinateur Baptiste qui est basé à Bruxelles, mais entre Skype et puis les réunions Paris, on s'est pas mal vu, et le comité éditorial composé de Yasmine, Lisa et puis les quatre sociologues. Et en gros, j'ai fourni un scénario détaillé au niveau de la planche, voire de la case, avec des dialogues que Baptiste a dessiné en mettant un storyboard, qui a été collectivement discuté, qu'est-ce qui a été introduit, qu'est-ce qui a été supprimé, une V1, et de même on recorrige le dessin, etc., jusqu'à la VF. Donc trois allers-retours en gros, c'est à peu près 6 mois l'écriture dans le temps, entre le premier scénario et puis la validation finale. Je vais vous donner un exemple concret, j'envoie ça à Baptiste, donc chapitre 2, la cité des navigants, c'est le moment du briefing. Donc vraiment, Baptiste, c'est quelqu'un qui n'est pas familier de l'avion non plus, il était aussi un peu phobique d'ailleurs. Et donc c'est assez descriptif comme écriture. Le chapitre 2 est consacré à la formation des équipages, on est à l'aéroport, la scène se déroule à H-3 avant le décollage, vue d'ensemble, d'un côté l'aéroport, plein d'avions, etc. Donc j'essaie de le décrire le plus précisément possible, la scène, et puis aussi dans les cases, case à case, ce qu'on voit éventuellement s'il y a des dialogues. Lui, il rend ça au storyboard, donc ça, c'est déjà un storyboard annoté, donc il rend la page de gauche. Et puis toute l'écriture, toute petite, la brouillonne dégueulasse, c'est la mienne, où après je réécris en disant là, il faudrait mettre les flèches davantage sur les galons, puisque ce qui est intéressant dans cette scène, évidemment, ils sont en uniforme et de l'extérieur, ils ont l'air un petit peu de clones dans cette cafétéria de l'aéroport, qui est le lieu où les navigants se rassemblent avant d'embarquer, donc ils sont en uniforme, prêts à prendre leur poste de travail. Et on a l'impression de l'extérieur d'une certaine homogénéité, de conditions, etc. Sauf qu'il y a une succession, enfin une infinité de petits signes sociaux distinctifs, du galon sur les manches des uniformes, aux indices d'âge ou de niveau de richesse, etc. Donc je disais, bon, bah, il faut qu'on voit davantage, par exemple, ces histoires de galons et la hiérarchie professionnelle à bord. Puisque l'idée, ce n'était pas, comme l'a dit Yasmine, d'avoir un petit cours avec des flèches, etc., mais de pouvoir, avec un coup d'œil, saisir les différences sociales qui s'instaurent ou qui existent et qui sont visibles et en fait qui sont très très bien perçues par l'ensemble des navigants. Donc à gauche on a les PNT, les personnes navigantes techniques, donc tout ce qui est pilote, et à droite hôtesse et steward qui partagent les mêmes espaces de repos hein, au départ à l'aéroport et qui pourtant voilà, ne se parlent pas en fait dans cette cafétéria de l'extérieur. On pourrait croire que tout le monde voilà, discute avec tout le monde. En fait, les commandants de bord, et c'est assez intéressant, sont debout un petit peu sur les tables plus hautes voilà, et ils sont plus vieux. Donc là, typiquement, j'avais écrit il faut représenter des commandants de bord assez âgés, un peu grisonnants, etc. On sait que la moyenne d'âge avance dans l'entreprise. Et les hôtesses et stewards plutôt assises à la table, par exemple, là, en train de lire des téléphones portables, des nouvelles, qui sont finalement assez isolées aussi au moment du départ. Exemple 2, je pouvais envoyer aussi dans l'écriture du matériau de terrain à Baptiste, puisque l'enquête avait eu lieu au siège... où j'observais au siège d'Air France, là, où j'observais en fait les préparations de vol avant d'embarquer, etc., qui n'étaient pas forcément des espaces faciles à se représenter et qui étaient extrêmement intéressants puisqu'il y a toute une problématique sur le lieu de travail et notamment la mobilisation de cette main-d'œuvre en fait, qui est connue sous le nom de matricule, hein, ils ont des numéros, mais qui en fait est très anonymisée dans la manière d'être utilisée. C'est-à-dire que les équipages sont à chaque vol, à chaque rotation, ils n'ont pas de bureau propre, pas de salle de réunion attitrée, ils ne volent pas dans les mêmes vols, évidemment pas dans les mêmes escales, et leur seul point fixe, entre guillemets, ce sont leurs casiers de navigants. Et là, en haut à droite, on voit les salles de préparation de vol avec des numéros, etc. Donc c'est un univers matériel et professionnel extrêmement froid, extrêmement anonyme, extrêmement dépersonnalisé, qui continue en fait cette avancée, enfin ce changement dans l'organisation du travail continue, puisque là on est dans une phase de dématérialisation même des casiers électroniques qui concrètement font le lien notamment avec le sol. C'est le seul moment où ils vont chercher leur courrier, leur fiche de paie, etc. C'était physiquement là, sauf que maintenant voilà, c'est par courrier électronique. Donc je pouvais envoyer voilà ce type de document avec le scénario détaillé, et puis Baptiste voilà, fait cette première ébauche de dessin, et j'essaye de commenter, par exemple, là, toute l'importance, il dessine le pilote qui ouvre, et en fait, là, à l'époque, je voulais qu'on voit absolument que ce qui tombe de la boîte aux lettres, en premier lieu, c'est tous les tracts syndicaux. Parce qu'en fait, tout le lien à l'entreprise se fait via, et toute l'information sur la vie professionnelle et la santé financière d'entreprise se fait via tract syndical, puisqu'ils n'ont pas d'encadrement fixe au sol, qu'ils viennent voir, ils ne sont pas convoqués, etc. Donc, ils ont vraiment un lien avec cette vie d'entreprise par cet ensemble de documentation qui tombe de leur casier et qui est, hein, ils sont très syndiqués comme milieu professionnel, plus de 80% pour les pilotes, à peu près 2/3 pour les hôtesses et stewards. Donc, ils s'informent de la vie via ces documents. Et donc là, je voulais qu'on ait cette idée de, un, c'est anonyme, voilà, uniformisé, etc. Ils sont assez isolés dans le travail. Ils s'en plaignent, en fait, régulièrement, contre l'image qu'on a hein, d'équipage. Quand ils se tutoient, forcément, à bord, on a l'impression qu'il y a une certaine proximité, qu'ils se connaissent, ils s'appellent par leur prénom, etc. Et puis, cette idée, voilà, qu'en fait, c'est essentiellement... un lien très fugace dans le temps et qui passe beaucoup par cette entrée syndicale. Et donc ça, c'est la planche finale de la BD où effectivement on voit les tracts. Et alors sur les tracts, en plus là, non au low cost, etc. Bon, ben ça, c'est effectivement l'actualité qu'Air France a connue depuis 2015 avec l'introduction de différentes filiales. Voilà, mais on ne va pas rentrer dans l'actualité de l'entreprise. Alors, les questions que ça m'a posées, un, sur le plan de la production de l'album, deux, sur le plan de la connaissance. La production de l'album, c'est premièrement, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui quand on est inscrit dans le champ académique en France, quand on est sociologue professionnel? Est-ce que écrire des albums de BD, c'est reconnu, c'est valorisé dans les recrutements? Alors, c'est plus mon enjeu, entre guillemets, puisque je suis recrutée, mais c'est une question qui se pose. Est-ce que ça a une place? Est-ce que c'est valorisé par nos tutelles, par nos, les membres qui nous évaluent toutes les années, etc.? Et ça, pour le dire simplement, on voit qu'on est très en retard en France sur ce point de vue-là par rapport au Canada, notamment aux États-Unis. Au Canada, j'étais à l'automne dernier, ils ont un séminaire sciences sociales et BD, et la chercheuse qui nous accueillait expliquait que 20% de leurs CV, ils sont très... ils quantifient tout, étaient attribués, l'évaluation de leur CV, 20% à ce qu'ils appellent le transfert de connaissances. Et le transfert de connaissances, c'est les webdocs, c'est les BD, c'est les blogs, etc. Ce qui n'est pas du tout notre cas aujourd'hui, encore à l'heure actuelle en France. Donc ça, c'est une question que je mets à part, entre guillemets, qui me concerne moins, ou en tout cas, je me suis sentie un peu libérée par rapport à ça, puisque j'ai la chance d'être déjà en poste, mais on sait qu'aujourd'hui, c'est quand même assez compliqué et concurrentiel comme milieu, et que c'est probablement une évolution qu'il faut encourager et qu'il faut faire reconnaître, parce que c'est vraiment un travail d'écriture long et qui demande d'autres compétences, mais pas seulement par rapport à l'écriture d'articles. Alors la BD dans l'enquête, moi comme je vous disais, c'est pas une enquête que j'avais terminée complètement, et là ma convention de recherche elle court jusqu'à 2019, et donc cette BD est sortie, évidemment j'étais encore sur le terrain à faire des entretiens. Bon, ça a posé deux séries de questions. Ça veut dire pour les RH, le DRH là, avec qui je suis en contact, bah évidemment, il y a une clause de notification de publication dans ma convention de recherche. Je leur dis quand quelque chose sort, un mois avant, mais ils n'ont pas le droit de regard sur cette écriture. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de modifier le contenu ou de me demander de modifier, si tant est que je respecte l'anonymat, etc. Et là, on voit très précisément une première réaction assez de surprise, et puis de... Alors, la recherche publique, c'est ça, on est payé à faire des BD, etc. Bon, ils s'attendaient, en plus, venant de l'INED, à un travail de quantification, etc., que je fais maintenant, heureusement pour moi, mais sur l'analyse des carrières, les statistiques d'avancement de carrière, etc. Bon, c'est une partie qui n'a pas de place dans le format dessin, mais on voit la réaction qui a été un petit peu de surprise, et du coup un petit peu de fermeture du terrain, puisque concrètement il a envoyé un mail aux 15 000 navigants en disant si vous êtes contacté par la sociologue qui est chez nous en ce moment, vous dites que l'enquête est ajournée. Donc on a eu quelques explications, mais c'est reparti. Mais donc c'était pas forcément très opportun, en tout cas vis-à-vis de la direction. Par contre, vis-à-vis des navigants, c'était extrêmement intéressant. Les hôtesses, effectivement, hôtesses stewards, ça a été très bien reçu, mais les pilotes aussi, même si certains ont pu dire bah, ils sont caricaturaux dans le livre, ils ont l'air macho, ils gagnent 20 000 euros, etc. C'est une partie de la réalité de cette population. Ils l'assument, ils le savent. Et puis en plus, c'est assez intéressant parce qu'il y a deux sous-populations à Air France. On a les commandants de bord court et moyen courrier qui font vraiment les petits allers-retours Paris-Lyon, Lyon-Paris, Paris-Lyon toute la journée, etc., qui sont beaucoup, et un travail beaucoup moins prestigieux, moins rémunéré, etc. Donc eux, ils disaient « Oui, Anne, c'est super ton truc, on apprend plein de choses. Nous, on devrait même le diffuser dans l'entreprise pour qu'on sache mieux le métier des hôtesses et inversement. Mais tu sais, c'est pas notre cas parce que nous, en court courrier, moyen courrier, on n'est pas du tout payé pareil, etc. Puis on est solidaire avec les équipages. » Et puis les longs courriers, ils me disaient « Oui, oui, c'est bien, mais bon, on n'est pas toujours aussi distant, ou on n'est pas toujours aussi macho, etc. » Effectivement, il y a forcément dans la BD, on va en parler après, une part de caricature pour introduire un peu d'humour, de distance, de rire, et puis pour rendre compte en fait des traits sociaux, ce qu'on cherche à voir, on met le zoom forcément sur les 160 pages, en fait on fait un arbitrage dans ce qu'on a observé sur l'ensemble du terrain, et on met le zoom sur des faits saillants, qu'on trouve saillants et qui sont réduits ici, donc le temps est condensé, l'espace est condensé, donc la partie sur, je sais pas, par exemple le rapport au corps des hôtesses ou au corps des passagers, etc., ils prennent la place, mais par rapport à leur expérience quotidienne de travail, c'est forcément, ça ressort un peu plus. Donc ça n'a pas du tout freiné l'enquête, au contraire, même des gens qui m'ont dit ah, « j'ai vu que vous faites une BD, venez m'interroger, etc. » Donc sur l'enquête, sur les enquêtés, oui, c'est au niveau des liens institutionnels, c'est un petit peu refroidi, bon, mais c'est reparti, ça va, parce que l'INED me fait une formidable caution scientifique pour le travail de terrain. Et par contre, voilà, les questions qui se sont posées au niveau des enjeux de connaissance. Premièrement, c'est la place du sociologue dans la BD. Alors, je vous mets exprès cette planche où j'ai l'air ridicule. Je suis avec l'équipage. À l'époque, j'étais enceinte. Et en fait, la place du sociologue dans le terrain, elle disparaît complètement dans la BD. Le passager phobique, là, il ne sert pas à montrer comment on enquête, comment on prend des notes, etc., dans un avion où il n'y a pas de place, concrètement. Je n'ai pas de siège assis, etc. Et en plus, où l'équipage... ils ont une jeune chercheuse phobique de l'avion enceinte. Bah, ils disaient, bon, j'étais un peu atypique pour eux, un peu anecdotique. Ils s'amusaient et voilà. En plus, bon, voilà. Et donc, ils voulaient toujours me prendre en photo avec eux à l'arrivée, au départ, dans le cockpit. Donc, je vous ai évité toute la série de photos presque humiliantes où je suis. Mais c'est pour vous dire que c'est ce personnage qui a disparu, mais qui a néanmoins facilité vraiment l'entrée sur le terrain, parce que un des enjeux de cette BD, comme de l'ensemble des mondes professionnels qui sont représentés dans Casterman, c'est la technicité des mondes professionnels dans lesquels on arrive et qui sont un gage pour nous de crédibilité. Ça veut dire que si au début, je ne maîtrisais pas les termes techniques, voilà, les types d'avions, les types de phases de décollage, d'atterrissage, ce n'est pas grave parce que j'avais cette idée, je suis extérieur, je ne connais pas. Maintenant, quand je restitue à l'écrit dans le livre l'ensemble du vol, en fait, un des gros défis, mais ce qui ne m'intéressait pas moi, mais c'était d'être exact dans l'ensemble des termes techniques mobilisés parce que ça allait être reçu par le public, des navigants en particulier et pas seulement, et qu'ils allaient juger la qualité et l'exactitude de mon travail d'interprétation scientifique à l'aune des critères qu'ils maîtrisaient, c'est-à-dire la technicité des avions. Donc moi, j'ai tout un travail de est-ce que mince, c'est le bon nombre de moteurs qui abordent cet avion ? Est-ce que quand la vitesse de décollage est celle-ci, c'est bien celle-ci sur cet appareil ? Ça change dans tous les avions. Donc, la deuxième question, c'était ces choix des personnages, justement. Les équipages sont variés. Néanmoins, vous prenez aussi l'avion, peut-être Air France. Vous voyez, il y a un vieillissement des équipages, un vieillissement démographique. Le sexe ratio, j'imagine, vous l'avez assez vite. Hein, si vous regardez toujours par la cabine d'avion, vous voyez ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Les commandants de bord et copilotes, c'est 94% d'hommes en 2015, hôtesse steward 2/3 de femmes. Ce que j'ai fait, comme je pense les autres auteurs illustrateurs, c'est que les personnages principaux correspondent à des idéotypes sociologiques. C'est vraiment un processus de typification. Ça veut dire que le commandant de bord, bah, dans cet ouvrage, il a 52 ans. Il gagne environ 18 000 euros par mois. Il est sur long courrier et à temps plein, ce qui correspond effectivement en moyenne voilà, à la place du commandant de bord qui est un homme qui a environ cette moyenne d'âge, qui gagne etc., environ ce salaire sur long courrier en fin de carrière. Pareil pour l'hôtesse, Sylvie, elle a 42 ans, c'est une femme divorcée qui a deux enfants à charge et qui vit dans un petit pavillon périurbain de la banlieue parisienne, du Val d'Oise, etc. Ça correspond à une expérience moyenne chez ces hôtesses. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas une grande diversité néanmoins de situations, et c'est ça où les personnages secondaires ou ternaires permettent d'introduire et de réintroduire leur diversité sociologique. Ça veut dire qu'on voit dans cet équipage à bord un jeune steward étudiant, puisqu'il y a les intérimaires de l'été, qu'on voit d'autres membres de l'équipage qui ont des propriétés sociologiques qui sont censées venir atténuer normalement l'aspect, entre guillemets, un petit peu caricaturaux, idéotypiques des personnages principaux. Donc ça a été le choix de respecter ça. Après, tout le problème, c'est pas un problème, c'était les débats qu'on a eu avec Baptiste, Yasmine, Lisa, etc. C'est que, par exemple, ce dessinateur, Baptiste, qui est un excellent dessinateur, dessiner les hommes de manière hyper virile et vraiment musculature hyper développée, fierté, etc. Et donc, bref, moi, mon commandant de bord, il était déjà, par sa situation assez caricaturale, et le dessin rajoutait un petit peu. Donc on essayait à la fois de déviriliser ce commandant de bord et en même temps voilà, c'était des débats comme ça sur mais pourquoi tu lui fais un air si méchant, les sourcils, etc. On peut être, voilà, avoir la stature, le niveau de revenu, une certaine aisance sociale, voilà, mais il faut qu'on puisse trouver le juste ton. Et c'est évidemment, c'est tout le travail des allers-retours, hein, sur le dessin. L'autre travail qu'on a eu avec Baptiste, c'est que Baptiste, qui n'est pas sociologue, lisait mes synopsis et me disait « mais c'est chiant à mourir, tout truc, ça nous tombe des mains ». Et donc, quand il me fait mon storyboard, il m'introduit dans les discours, il oralise encore plus les extraits d'entretien que j'ai, mais qui sont des extraits d'entretien, pour le coup, pas inventés. Et donc, il met des swags, des trucs voilà, comme ça. Je lui dis « mais ça, c'est impossible qu'il parle comme ça, donc il faut qu'on revienne à un niveau de réalité ». Voilà, qu'on colle plus à la réalité, même si voilà, il y avait des passages qui y rendaient dynamique quelque part un style qu'on a, qui est formé et déformé par 10 ans d'écriture académique, par le passage de la thèse, par le rouleau compresseur de l'écriture académique. Mais notre objet, c'est quand même de rester dans des matériaux de terrain de première main. On ne réinvente pas des discussions. Tout ça, c'est de l'observation de terrain. Donc, il y avait cet enjeu entre Baptiste qui essaye de donner un ton plus enlevé à la BD, mais parfois avec voilà, des propos où il introduit quelques scènes qui nous font trop décoller, et moi qui avais le côté un petit peu « non, non, revenons au terrain ». Et puis toute la question, c'est qu'est-ce qu'on dit à partir d'une étude de cas, donc un vol, est-ce qu'on peut monter en généralité à partir de ce cas, qu'est-ce que le lecteur peut, lui, est-ce qu'il fait ce travail d'interprétation, de monter en généralité ou pas, sachant, comme je disais, il n'y a pas d'appareil critique, il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas d'évolution dans le temps long. On est dans cette espèce de temps de 12 heures de vol. Et ça, c'est peut-être ce sur quoi on doit le plus travailler, parce qu'effectivement, même les journalistes qui reçoivent la BD nous disent parfois « mais qu'est-ce qui vous différencie finalement d'un journaliste qui aurait fait le long courrier ?» ou en quoi on voit que l'écriture ou le dessin a été informé par un travail d'enquête de longue haleine qui nous permet de dire que cette situation de travail est représentative de certains rapports sociaux à l'œuvre et d'une déformation de ces rapports sociaux avec l'entrée, pour le dire vite, dans la crise du secteur aérien français en tout cas. Donc peut-être on va faire des tests pour savoir si vous, en tant que public spécialiste, vous montez en généralité et vous faites appel à la littérature sociologique qu'il y a derrière, parce qu'effectivement... on se nourrit sur ce type de travaux, de toute une tradition. Moi, j'ai beaucoup lu toute la littérature sur, d'une part, le travail des hôtesses d'accueil, du travail émotionnel, etc. D'autre part, beaucoup de choses sur le corps, l'usage des corps dans le travail, donc des choses de Dominique Mémy aussi, beaucoup sur la domination rapprochée, etc. Donc, j'ai pris 3-4 planches comme ça qu'on va essayer de voir ensemble. Donc ça, c'est une des planches du début de la BD. Donc Sylvie à gauche, l'hôtesse, 40 ans, hôtesse de l'université. Et puis à droite, c'est le parallèle. Hein, le réveil chez Sylvie, il sonne à 4h15. Pile poil aussi, normalement, chez Martin. Vous êtes dans quel sens? Oui, à droite aussi, à 4h15. Normalement, vous voyez des différences d'ambiance, des différences de style de vie, de lieu de vie aussi. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier. Là, on ne voit pas trop. Bon, là, c'est assez simple. Hein, des types d'immeubles, haussmanniens d'un côté, Paris 12e, de l'autre, maison de banlieue, etc. Et un rapport au temps, et là, ce n'est pas seulement au temps, mais aussi au travail de transformation du corps, assez net entre Sylvie, elle qui est dès chez elle, en fait. Hein, l'emprise du travail, elle commence assez tôt le matin. C'est effectivement se maquiller, se mettre, coiffer, parfumer les ongles, les lèvres, etc. Et puis, il y a tout le travail d'organisation en amont du travail de garde et de care, quoi. L'école, les enfants, le dîner, nanana, elle est créée à la nourrice. Et Martin, lui, il est au milieu, il prend sa douche, il a le temps de prendre sa douche, il sifflote, après il part en moto, etc. Et donc ça, en fait, il fallait que par le dessin, donc par la disposition des cases, mais aussi par l'efficacité du dessin, le trait un petit peu resserré, etc., on ait l'idée d'une temporalité différente dans la mise en place au travail. Le vol, il part à 7 heures, mais on sait qu'ils arrivent bien avant pour préparer le vol. Et puis, il y a tout ce droit à l'absence, en fait, du domicile. Donc ça, c'est un travail sur lequel je suis en train d'avancer maintenant dans le cadre d'un article, mais sur la gestion, enfin ce que le travail mobile en fait fait à la parentalité et à la conjugalité. Est-ce qu'on autorise de la même manière et est-ce que c'est aussi légitime le départ des femmes du domicile et des hommes? Et du coup là, c'est intéressant parce que je compare mes femmes pilotes qui quittent, qui partent, et les hôtesses qui partent. Et est-ce que c'est accepté de la même manière, etc. Donc bon, effectivement, ça donne que l'intuition d'un début de réflexion. Mais normalement, en voyant ça, on est censé commencer à réfléchir sur tiens. Le vol, c'est pas seulement la montée dans l'avion et puis le travail en cabine des hôtesses et des stewards qui est assez physique, porter des plateaux repas, faire des allers-retours. Ils font du linéaire, hein, des kilomètres. Ils disent aller à la ligne. Hein, ils vont à la ligne dans la cabine, ils reviennent, ils portent les plateaux repas. Et en cockpit, c'est un travail plus technique. C'est aussi dès avant les règles de travail, la préparation, la formation qui a pas la même, qui se déploie pas pareil dans le temps. Alors, ben voilà, ça normalement. Je vais voir si vous avez lu tout ça. qu'est-ce qu'on voit ? On est dans le long courrier, donc c'est Sylvie qui est en train de sourire. Il y a des turbulences. Évidemment, les planches d'avant, c'est Marion, donc la phobie qui commence à divaguer, à imaginer le pire. Et puis, cette hôtesse qui dit, donc c'est... Le hors-texte, en fait, il est censé, la voix off, un petit peu, des fois, décoder. Enfin, bon, aider à décoder, mais c'est pas dangereux, c'est juste fatigant pour le corps, puisqu'il faut faire le service, tenir debout, raidir les muscles, etc., pour pas flancher, pour pas tomber, en fait, pendant le service, jusqu'à ce que le signal où on a le droit de s'asseoir soit donné par le commandant de bord. Et puis là, il y a cette... elle fantasme aussi, voilà, où son chef lui dit, il faut y aller, il faut continuer à servir... Mais elle, voilà, elle continue, elle garde le sourire en bas et le travail, voilà, son travail en particulier, c'est de garder le sourire. C'est de continuer à sourire et elle est évaluée. C'est dommage, j'aurais peut-être dû vous mettre un livret de formation au métier d'hôtesse où les grilles d'évaluation et le travail, c'est pas seulement d'apprendre à sourire, c'est d'apprendre à avoir un rapport authentique au sourire en servant. Donc on voit que le travail émotionnel, c'est vous devez servir en souriant, mais c'est pas seulement vous devez servir en souriant, c'est vous devez prendre plaisir en servir en souriant. Et là, c'est vraiment intéressant sur comment on produit ce sourire authentique, donc avec toute l'injonction contradictoire ça a, et comment on l'évalue, parce qu'en fait, ils sont évalués en cabine par le chef de cabine, etc., qui fait un petit rapport sur, est-ce que tu as été distant, ton sourire est mécanique, etc., ou pas. Donc l'idée, c'était travailler sur cette notion de... travail émotionnel. Cette planche, c'est peut-être la plus évidente sociologiquement, là, c'est des enjeux de... emploi, enfin genre et carrière quoi dans l'entreprise. Alors normalement, si vous êtes hyper fort en calcul mental, vous comptez le sex ratio, il est juste. Donc, vous avez les effectifs, vous avez 7567 hôtesses et je ne sais plus combien de stewards. Vous voyez, les chiffres sont donnés d'effectifs. Ah non, alors là, je dis une bêtise parce que c'est pas homme-femme. Donc vous avez juste déjà la structure pyramidale de l'emploi qui est assez spécifique, avec l'idée qu'on a une grosse armée industrielle de réserve, en gros en bas de l'échelon non qualifié, rang d'employé, hôtesse et steward, un petit encadrement intermédiaire, chef de cabine principale, et puis quelques cadres sol qui sont 170, qui sont vraiment qui ne volent plus et qui sont chargés d'organiser les promotions des autres. Et normalement, cette planche, en fait, ce qu'elle me sert à faire aujourd'hui, enfin non, c'est pas ce qu'elle me sert à faire, c'est ce qu'il y a derrière, c'est l'évolution de la place des hommes et des femmes dans la hiérarchie aux différents grades, en fonction, et cette évolution dans le temps. En gros, est-ce que d'une part, le travail mobile accentue les inégalités de genre classiquement observées sur le marché du travail ou pas ? Et comment ces égalités ou ces inégalités se creusent ou diminuent dans le temps? Parce que je fais une analyse longitudinale, on perd cet aspect dans la BD, quoi. Donc ça, c'est des chiffres qu'on peut reconstituer avec les fichiers RH. Hein. Et dans la BD, normalement, on peut calculer ou reconstituer ça si on a envie. Et si on n'a pas envie, on peut juste voir massivement qu'il y a un super boss, directeur, et puis une grosse armée de navigants qui ont ce rapport assez distant à l'encadrement, y compris l'encadrement de proximité. Bon, je redonne des éléments de carrière, voilà. Et alors, le dernier point, ce qui m'intéressait ici, j'ai beaucoup hésité à mettre cette planche finale, c'est on arrive à Sao Paulo, On les voit, les navigants, partir dans le minibus, dans la navette qui les emmène dans leur hôtel. Et puis, ils sont tous sur leur téléphone, leur iPhone, à écrire au sol, aux gens du sol, enfin, à leurs proches, arrivés, nanana, etc. Et puis, ça se termine, c'est un peu déconnecté sur cette planche pendant ce temps au siège d'Air France, entente illicite sur le cargo, 300 millions d'euros, assurance kérosène, 100 millions d'euros, etc. Donc, c'est l'ensemble des trous au bilan d'Air France, au bilan financier d'Air France 2015. En fait, j'ai souhaité remettre ça non pas dans une perspective polémique, puisqu'à l'époque, on est encore dans un plan d'encouragement au départ volontaire des navigants assez massif. À Air France, on réduit les effectifs. C'est pas seulement pour re-rentrer dans ce climat politique et conjoncturel, c'est pour rappeler que ce qui s'observe ici, au niveau de l'interaction en cabine, au travail, etc., en fait, est le fruit de conditions structurelles de travail plus larges. Et ça, c'est une vraie question qui se pose dans la BD, puisqu'on est au niveau de l'interaction. On observe des scènes, voilà, vraiment. Et on peut, du coup, glisser assez rapidement dans une perspective assez interactionniste, d'analyse, voilà, de la situation. Or, moi, ce qui m'intéresse, et puis par ma formation aussi en sociologie plutôt critique, ce que j'observais ou ce que je pouvais analyser à bord, évidemment, m'était compréhensible et était informé par la place de ces navigants plus largement dans l'entreprise, l'évolution de leur place relative entre eux, de la séparation progressive des équipages, avec le fait que, je ne sais pas si vous avez vu, ils ont des conditions de travail, des règles d'utilisation, des accords collectifs qui sont négociés séparément et qui vont encore plus l'être à l'avenir. Donc, c'était pour réintroduire l'idée que, en fait, cette situation de vol et toutes les petites interactions et les petites conversations ordinaires qui semblaient peut-être anodines, elles avaient aussi, évidemment, un lien avec ce sol qui est très distant. Hein. Comme je vous le disais, les navigants, ils peuvent ne pas venir dans les bureaux qu'on a vus au début, là, en photo. Ils peuvent ne pas passer chercher leur courrier maintenant que tout est dématérialisé et jamais voir leur encadrement. Donc, c'était rappeler, en fait, que cette structure matérielle, mais aussi qui détermine vraiment l'évolution de carrière, pour eux, elle est à la fois distante, elle a un objet de crainte, et en même temps, elle informe la manière dont ils se comportent en vol et dont, en fait, les gestes qu'ils font, hein, sont minutés, décidés au sol, négociés. Par exemple, chauffer un petit pain dans le service au client dans le plateau repas, c'est l'objet d'une négociation syndicale pour savoir si on rajoute ce geste, combien de temps ça prend, combien de temps ça immobilise le PN, quelle pénibilité c'est au travail, etc. Donc c'est de voir, en fait, voilà, que c'est pas seulement le fruit, enfin voilà, que c'est très procédurier, très et qui trouve cette place dans cet ensemble assez technique. Bon, je pense assez parlé, mais j'essayais, voilà, de vous rendre compte à la fois de cette écriture et de ce qui est, ce qui n'est pas dans la BD. Alors aujourd'hui, mon job, puisque je suis à l'INED, donc voilà, et qui est assez qui a un format d'écriture plus classique, etc. Je suis dans une phase d'analyse et puis d'écriture d'articles, au format académique classique, quoi. On discute une biblio, on discute des résultats de recherche, etc. Mais voilà, ça c'est pour moi, c'est pas antinomique, c'est pas à côté, c'est vraiment complémentaire et ça a permis de creuser et d'avancer sur un certain nombre de sujets. Je vous remercie.
Bonjour, donc ça ne sera pas aussi technique, mais on va essayer de s'y approcher. Donc déjà, je présente la BD, c'est La banlieue du 20h, que du coup j'ai adapté en BD d'après la thèse sociologique de Jérôme Berthaud. Donc je vais vous raconter toute l'histoire de la BD un peu. Donc il s'agit de Jimmy Tandini, qui est un jeune journaliste qui sort de l'école et qui va en fait à son premier boulot pour un JT national. Donc en fait, on va le suivre au cours de ses premiers pas au service, information générale, c'est-à-dire qu'il va traiter les faits divers, etc. Et surtout la banlieue. Donc en fait, pendant toute la BD, on va pouvoir percevoir les différents services, les fonctionnements, des hiérarchies, et il va aller en fait du coup en banlieue suivre des différents sujets en fait. Et par ce procédé, du coup, on va comprendre comment marche un JT et comment les journalistes peuvent le filmer, comment ils peuvent après le monter et après le diffuser à la télé. Ce qu'on voit en fait du coup tous les soirs au JT ou au 13h ou le matin. Donc en fait, je vais vous expliquer comment ça va marcher. Alors là, c'est Jérôme Berthaud qui a édité sa thèse, La banlieue du 20h. Du coup, lui, il est allé pendant plusieurs années analyser en fait le fonctionnement de France Télévisions. Et il a suivi des journalistes et du coup, il a interrogé des journalistes. Et il a fait du coup sa thèse sur ça et il en a sorti son bouquin. Du coup, en fait, cette thèse, c'est beaucoup d'interviews avec les journalistes, des chiffres, des graphiques. Et de partir de là, en fait, j'ai dû faire la BD. Donc, je vais vous réexpliquer du coup le fonctionnement, même si ça a déjà été dit à côté. Donc, ça, c'est sur Ama. C'est pas ça. Donc, voilà. Là, j'ai bossé avec Jérôme Berthaud. Alors, je suis venu vers lui avec une histoire après avoir lu sa thèse. Et lui, en fait, il m'a un peu aiguillé sur comment avoir une meilleure approche, comment avoir une approche plus sociologique, comment, on va dire, au sein de la rédaction, comment finalement ça marche, comment les chefs parlent à leurs journalistes, comment ils introduisent des idées et comment ils leur disent indirectement, par exemple, qu'il faut faire plus ou moins cette coupure, qu'il faut dire plus ou moins ça, et que finalement, si le journaliste ne le fait pas, eh bien, il sera éventuellement des répercussions indirectes sur son travail. Du coup, lui, il m'a expliqué ça. Ensuite, l'histoire, ça a été amené vers Yasmine et Lisa Mandel, qui sont les directrices de la collection. Et en fait, après, il y a eu des retours. Et ensuite, avec le comité de sociologie qui était au sein de Casterman. Et après, bien sûr, j'ai fait le storyboard, qui a été relu par tout le monde. Et ensuite, la BD qui a été relue, etc. Alors, en fait, c'était assez compliqué déjà personnellement parce que bah, t'envoies ton travail et tout le monde le relit, tout le monde donne son avis forcément, qu'ils sont là aussi pour ça. Et des fois, on a envie de se dire, mais on les emmerde, quoi. C'est mon boulot, je fais ce que je veux. Et finalement, en fait, je comprends plus tard que c'était très important, en fait, ce point de vue global. Parce qu'en fait, on ne va pas oublier que ça reste une BD aussi pédagogique. Mais je vais revenir dessus après. C'est moi. Alors, pour le fonctionnement de la BD, j'ai moi-même fait un stage d'observation au sein de la rédaction avec des journalistes. Et du coup, en fait, j'ai pu avoir un aperçu global de comment ça fonctionnait. Bien sûr, je n'ai pas fait toute l'analyse de Jérôme Berthaud. Je ne suis pas resté aussi longtemps. Je n'ai pas fait des interviews auprès des journalistes. J'avais aussi un énorme point de vue en fait, graphique. J'avais besoin de sentir comment ça fonctionnait, comment les gens se parlaient, le vocabulaire, comment les gens, comment les gens faisaient les lèches-culs par rapport au chef, ou comment ils se comportaient à la cafétéria, etc. Du coup, là, j'ai pu me rendre compte en fait, qu'il s'agissait surtout d'une entreprise comme les autres, avec les mêmes problématiques, et surtout la problématique finale, c'est de garder son travail pour après payer son loyer. Et qui, mine de rien, en fait, ça change pas mal la donne, parce qu'on a des jeunes journalistes qui arrivent, qui sont précaires, du coup plus malléables, et après, pour avoir un JT qui sera plus aux yeux, enfin, un JT, on va dire, modélé par les rédacteurs en chef et par les chefs. Du coup, je suis également allé en banlieue, voir comment ça se passait, je posais des questions à des gens qui y vivaient, qui habitaient, etc. Donc là, on peut voir Paris et sa banlieue, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, comme on peut le voir, en fait, c'est extrêmement grand. Du coup, on a un peu du mal à se l'imaginer des fois, parce qu'on a du coup toujours l'impression d'avoir une certaine vision de la banlieue. Et c'est-à-dire la vision sécuritaire, la vision des problèmes. Généralement, en fait, au cours des plusieurs dizaines d'années de JT, on aura surtout des reportages lorsqu'il y a des émeutes, lorsqu'il y a des problèmes, lorsqu'on a toujours un côté problématique. Et finalement, je pense que ça a apporté cette vision négative de la banlieue. Pourquoi, lorsqu'on pense à la banlieue, lorsqu'on nous parle de la banlieue, on imagine avant tout les immeubles, les cités. Alors qu'il y a aussi des villages, des pavillons, la campagne, les compagnies. Donc, à la base, j'ai fait mes recherches, j'ai recherché les personnages. Parce qu'avant tout, il s'agissait de créer une histoire. C'est-à-dire qu'on ne s'emmerde pas à la lire, la BD. Il faut que ça soit intéressant, qu'on ait envie de la lire sur son canapé, qu'il y ait des intrigues, des relations entre les personnages, un peu d'amour, un peu de trucs de tous les jours, de la tristesse. Et, parce que je pense que, finalement, l'intérêt de Sociorama, c'est pouvoir avoir une connaissance, avoir une certaine étude sociologique, mais via une histoire, c'est-à-dire que ce soit pas seulement des textes ou des analyses ou des chiffres, mais qu'on puisse s'intéresser à des personnages, qu'on puisse s'attacher à eux, et qu'au final, avoir une certaine étude sur ça, avoir une certaine connaissance qui nous a été apportée. Alors, je ne sais plus pourquoi j'ai mis ça. Donc ça, c'est une image de la thèse. Donc là, moi, mon principal problème, ça a été, du coup, la représentation de la banlieue. Ça n'a pas été un problème pour moi, parce que... je ne sais pas, parce qu'il n'y avait pas, mais... Par exemple, au début de ma relation avec Jérôme Berthaud, lui, il n'était pas forcément chaud pour travailler avec moi. Pour la raison que j'avais pas vraiment forcément fait un travail déjà sur la banlieue, j'avais pas fait de représentation, du coup il était un peu inquiet en fait de comment j'allais représenter la banlieue. Et je, à juste titre du coup, mais au début j'avais pas vraiment compris comme ça, je savais ce qu'il insinuait, il pensait que j'allais faire quelque chose de cliché ou, enfin du moins il savait pas justement. Du coup j'ai fait quelques dessins. Et du coup, voilà, il a accepté. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est mon travail habituel, ce que je faisais du coup avant de faire la banlieue du 20h, c'est-à-dire une représentation graphique un peu plus de la ville, plus torturée. Oui, c'est là, c'était, je crois que la Villette, c'est sale, enfin, c'est vraiment crade, c'est assez noir, c'est sombre. Et bien sûr, c'est pas forcément représentatif là, par exemple, de Perpignan. Mais on va dire que c'était mon approche artistique de la ville. En gros, moi, je voyais la ville, je communiquais mes histoires par aussi la ville. C'est-à-dire que là, je voulais évoquer quelque chose, une certaine solitude, une certaine, le côté sombre de la ville, le côté chaotique. Et du coup, je me sers énormément de... du bâtiment, de l'hygiène ou quoi que ce soit pour évoquer un message. Alors, la question, c'est est-ce que je pouvais faire pareil pour la banlieue du 20h, finalement ? Parce que tout l'enjeu, justement, de la banlieue du 20h, c'est comment les journalistes représentent la banlieue à travers l'image. Parce que lorsqu'on voit un JT sur la banlieue, c'est toujours les mêmes images. On commence avec les immeubles, les paraboles, et après, on va vers les habitants, le maire, etc. Mais du coup, finalement, si moi, je représente la banlieue de cette façon, est-ce que ce n'est pas problématique envers la bouquin ? Parce que quoi qu'il arrive, comme je l'ai dit, c'est un livre pédagogique. Du coup, est-ce que ce n'est pas se tirer une balle dans le pied que de représenter la banlieue comme ça ? En gros... La problématique était du coup, est-ce que je remettais en cause mon point de vue artistique si je représentais des immeubles, pour dire, plus clean, des choses, pas de fissures. Parce que par exemple, là c'était un article que j'avais pu faire sur la difficulté qu'ont les écoles musulmanes privées à trouver des financements. Et du coup, là, j'avais fait des fissures pour évoquer ce côté fragile de l'école qui n'avait pas d'argent. Bref, c'est un petit détail, mais parce qu'il y avait un certain message derrière ça. Et finalement, je me suis rendu compte que cette BD, c'était surtout un compromis mutuel à faire. Moi, personnellement, je ne devais pas forcément représenter ma vision de l'immeuble, parce qu'elle n'était pas forcément déjà vraie, et elle aurait été un peu, du coup, aussi cliché. Et du coup, le sociologue, lui, avait des compromis sociologiques à faire, parce que j'avais, moi, une histoire à raconter, j'avais des personnages à faire vivre. Et du coup, comme je disais tout à l'heure, c'est que il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas de données, c'est quelque chose qui doit être assez fluide, qui doit être assez agréable à lire. Donc je me suis dit, voilà, il faut représenter ça comme ça, et ne pas justement rentrer dans la facilité qui aurait été mon point de vue artistique. Parce que je peux déjà l'évoquer de différentes façons, et qu'il n'y a pas uniquement le bâtiment ou quoi que ce soit. L'autre aussi cliché qu'il fallait éviter, c'est justement montrer des journalistes caricaturaux. Parce que finalement, ça aurait été une erreur que de critiquer les journalistes qui font la banlieue une caricature en les faisant eux-mêmes une caricature. Et ça, ce qui a été intéressant, c'était justement d'aller sur place et de voir les différentes personnes, de voir comment elles interagissaient entre eux, et de voir en fait que ce sont souvent des êtres humains dans une entreprise et avec des problématiques financières. Je crois que c'est tout.